la société royale, et si vous aviez comme moi devant moi, mais vous l'aurez, le frontispice de l'histoire de la Royal Society de Thomas Pratt, vous avez Charles II en empereur romain avec des lauriers. Sur sa gauche, le chancelier Francis Bacon de la période précédente. Oui. Donc l'idée, c'est un petit peu de relier la Société royale de Londres avec le projet baconien. Mais on se rappelle que Bacon était le chancelier du roi Jacques Ier d'Angleterre, déjà un Stuart. Entre les deux, on a complètement gommé le passage républicain, mais vaut mieux. Alors, tous ces gens vont se retrouver d'abord au collège Gresham. Donc on voit bien le lien avec la période précédente. Mais le problème, c'est que, alors là, de ce point de vue-là, Charles II est un petit peu comme Elisabeth un siècle avant. Charles II dit que, ben non, il ne va pas financer. Il veut bien donner une charte, mais vous vous débrouillez. Autofinancement. Je vous donne une charte, je vous donne le droit d'aller à l'étranger, éventuellement diplomatiquement, de prendre des contacts, d'écrire des lettres à des Français, ouais, pourquoi pas. Mais pour ce qui est de construire un laboratoire, construire un amphithéâtre, construire tout ça, c'est niette, je ne donne rien. Alors, la solution de la Royal Society, elle va être de s'autofinancer. C'est vraiment la grosse différence avec l'Académie des sciences. L'Académie des sciences, c'est le roi qui crée un truc où globalement il va payer les meilleurs experts du royaume, mais qui vont travailler pour lui. Là, c'est autre chose. C'est un club d'amateurs. Bon, certains en plus sont républicains, mais il ne faut pas le dire. Qui s'autofinance et globalement, ça suppose un fonctionnement par autofinancement, par souscription. 10 shillings pour le droit d'admission et 1 shilling par semaine pour l'abonnement. Au début, ça marche assez bien, mais ils sont 200, donc ils y arrivent à peu près. Mais en 1690, il n'y a plus que 35% qui payent leur souscription, donc il y a un problème quand même. Enfin, vous voyez, ça c'est déjà la première chose dont je voulais parler. Pas de chance, le collège Gresham en 1666, vous savez ce qui se passe, Londres brûle, comme dans la chanson. Et Londres ayant brûlé, il faut se déplacer ailleurs. Heureusement, le comte d'Arundel fait partie du groupe, de la Royal Society, et rassemble tout le monde à Arundel House, chez lui. On a là un fonctionnement avec de type monarchie parlementaire, avec un président, un vice-président, un trésorier, deux secrétaires, et donc monarchie, hein, président, mais un conseil de 21 membres élus, plus ensuite des comités et sous-comités. Voilà ce qu'est la Royal Society. Premier président, c'est Lord Branca, donc un lord, évidemment, qui est un personnage important pour la marine anglaise. Voilà. Et l'autre personnage important, c'est le secrétaire de la société qui s'appelle Henry Holdenburg, Holdenburg. Je le dis à l'anglaise, mais je devrais dire Henry Holdenburg, parce qu'il vient en fait d'Allemagne. C'est quelqu'un qui est arrivé à la fin de la République. Il a été envoyé par la ville de Brême en Angleterre pour arranger les choses avec Cromwell dans une guerre entre l'Allemagne du Nord et les Suédois. Je vous passe le détail. Bref, il est resté. Et c'est Henry Holdenburg qui appartient au début au cercle de Hartlib et des puritains anglais, est absolument fondamental pour le destin de cette Royal Society. Il faut que vous vous disiez que c'est pas gagné, cette société. En fait, là, je suis en train de vous parler de la naissance de la philosophie expérimentale. Or, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce groupe de 200 membres, hein, qui sont, d'abord, c'est que des hommes, une femme, et quand il y a une femme qui vient, c'est le scandale. Cas de Margaret Cavendish, qui est là, terrible. Et une société à 80% londonienne et globalement un club un club de notables. Alors il y a bien quelques savants ici et là, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de politiciens, d'aristocrates, de membres de la gentry, du clergé, de fonctionnaires, etc. Il y a les milieux de la cour, globalement. Il y a quelques universitaires et savants. Il y a pas mal de médecins aussi. Voilà. C'est ça, la Royal Society. Donc, un club de gentlemen. Alors, voilà. Donc, ce qui va donner beaucoup de force à ce club de gentilhommes, c'est que, d'une part, on va y faire de l'expérimentation, je vais y revenir, mais d'autre part, on se dote d'un périodique scientifique qui s'appelle les Philosophical Transactions. Ces transactions philosophiques, elles vont avoir un énorme succès, elles vont gagner toute l'Europe, elles vont être traduites dans les périodiques italiens, français, et en gros, la science, c'est ce qui se fait au sein de la Royal Society. Alors, il y a trois points, et c'est les trois points majeurs que je veux développer dans les 3 ou 4 minutes qui me restent. C'est qu'en fait, ce qui se développe, ce qui fait que la science, la philosophie expérimentale se construit en science à ce moment-là, c'est, comme l'expliquent Chapin et Schaffer, qui ne sont pas démodés, contrairement à ce que disent de vilaines gens, Chapin et Schaffer expliquent qu'il y a une triple technologie. Une technologie sociale qui a pour centre l'idée de ce que c'est qu'un témoignage validant. Je ne sais pas si j'explique à chaque fois. Bon, je reviens. Je vous dis les trois, et puis après, je vous dis ce qu'il en est. Technologie sociale, technologie matérielle qui passe par des instruments, et technologie littéraire qui passe par la façon d'enregistrer les expériences et les transcrire sur le papier de façon claire et distincte. Technologie littéraire aussi qui permet de... des controverses polies. C'est pas un truc évident non plus. Ces trois technologies vont fonctionner ensemble. Alors, les témoignages validants, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que l'idée de Robert Boyle et des gens qui l'entourent, notamment son laborantin, Robert Hooke, H2OKE, c'est que on peut fonder une partie du savoir. Alors bien sûr, les mathématiques, tout ça, ça marche bien. Mais dans certains domaines, on peut fonder les savoirs sur un experimentum. C'est-à-dire l'idée que quelque chose qu'on va fabriquer avec des instruments devant un public qui va valider que c'est vrai, ça vaudra à jamais comme science. Alors, qu'est-ce qui fait que ce sera valide? C'est que d'une part, ce sera répétable, mais d'autre part, surtout, qu'il y aura des gens fiables qui vont témoigner de ce qu'ils ont vu. Je vous signale au passage qu'aucun d'entre vous, sauf si je me trompe, aucun d'entre vous n'a jamais vu un cyclotron. Je ne me trompe pas. Un cyclotron fonctionnait, etc. Pourtant, la nature de l'atome avec des électrons, même pour certains d'entre vous cultivés, le boson de Higgs est une réalité. Mais tout ça parce que vous acceptez que des savants ont fait la recherche, ont fait la démonstration, et maintenant, on le valide. Ça vous paraît naturel de fonctionner comme ça, que les savants produisent la vérité et nous, la société civile, on l'accepte. Sauf que cette idée-là, elle était totalement neuve au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire que Boyle et ses copains de la Royal Society ont commencé à dire, écoutez, on a fait l'expérience, on l'a fait en présence de gens qui sont des gens fiables. D'abord, ce sont des savants, et puis d'autre part, c'est des nobles. Sous-entendu, si vous n'êtes pas d'accord, on va régler ça à l'épée très rapidement. Parce que la question de la vérité, hein, je vous renvoie au livre, beau livre de Chapin qui s'appelle « The Social History of Truth », la question de la vérité au XVIIe siècle, surtout à une époque de troubles civils, Hein, si vous n'êtes pas d'accord avec la parole d'un noble, vous remettez en cause la vérité de sa parole. En anglais, you give him the lie. Et to give the lie, c'est défier en duel. Donc, vous voyez, c'est... voilà. Mais il faut apprendre aussi une façon de dire la vérité sans choquer les gens, de manière à ce qu'on ne vienne pas vous taquiner à chaque fois. Donc, il faut un témoignage valide. Et l'argument de Boyle, c'est de dire, autour de moi, dans la Royal Society, on a des savants, on a des gentilshommes, et franchement, si c'est fait devant des gens comme ça, tout le monde doit accepter que c'est vrai. C'est ça que détestent les historiens internalistes des sciences. Ils disent, mais quand même, la science est la science. Et ce que Chépine et Schaeffer ont montré, c'est que, oui, mais la science est la science, mais la validation de la science, elle se fait aussi par des processus qui sont des processus sociaux. D'où le titre de la question de Capes. Donc, un témoin, le technologie sociale. Deuxième type de technologie, je reviens sur la technologie sociale. Par exemple, quand Robert Hooke, à un moment, fait des expériences sur la transfusion sanguine sur deux chiens. Il dit, ben voilà, ça marche, j'ai réussi à le faire. Et tout. Bon, il lui dit, mais vous êtes gentil, mais vous ne l'avez pas fait devant la société. Donc ça ne vaut pas, vous allez refaire. Mais ça dit ce que c'est que ce témoignage validant. Deuxième cas, deuxième élément de la démonstration, la technologie matérielle. Cette technologie matérielle, elle fait que les savoirs nouveaux, vous allez les prouver grâce à un experimentum que vous allez monter. Cet experimentum, il suppose la maîtrise d'un certain nombre de technologies. L'exemple majeur de cet experimentum, c'est la pompe à air à l'époque de Boyle et de Hooke. La pompe à air, c'est une machine qui est quand même le summum de la technologie de l'époque parce que c'est compliqué à fabriquer. C'est compliqué à régler les problèmes d'étanchéité. Mais dans une pompe à air, vous avez... C'est génial, la pompe à air, parce que vous pouvez créer du vide, un truc anti-aristotélicien, s'il en est. Aristote, ni Descartes, d'ailleurs. Voilà des gens qui avaient horreur du vide et qui étaient contre l'idée que le vide puisse exister. Eh bien, on va prouver qu'il y avait le vide en le faisant dans une boule en verre. On va pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on met dans la boule en verre dont on va extraire, sucer l'air par une pompe, ça suppose que l'étanchéité soit parfaite, eh bien, on va observer des choses amusantes. Notamment le fait que, par exemple, une chandelle s'éteint à peu près au même rythme que s'éteint la vie de la petite souris qu'on aura mis à côté aussi. À peu près en même temps. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'air, de ce que l'air apporte à la vie. Donc, il y a toute une réflexion là-dessus qui est philosophique. Il y a aussi l'idée de... puisque le vide, on peut créer le vide et que c'est anti-aristotélicien, autant regarder aussi ce qui se passe. Par exemple, quand la fumée de la chandelle s'éteint, est-ce qu'elle va vers le haut ou vers le bas dans le vide ? Eh bien, théoriquement, d'après Aristote, elle va vers le haut, puisque les gaz vont vers le haut, c'est insubtil. Mais là, parfois, la fumée va vers le bas. Donc là, question, qu'est-ce qu'on voit, etc. Donc, il faut un témoignage validant et la machine. Donc, il y a là quelque chose de vraiment fondamental, c'est la fabrication d'un objet qui va permettre la démonstration. À l'époque moderne, vous auriez un exemple du même ordre dans les années 30, quand la seule démonstration qu'on ait de l'existence des électrons et de ce qu'ils font, c'est un cyclotron qui a été fabriqué à Berkeley. Le problème, il n'y a qu'à Berkeley qu'on l'a fabriqué. Donc le témoignage validant, c'est ceux des savants de Berkeley. Mais comme ce n'est pas réplicable ailleurs, ça pose quand même un problème. Quand Joliot-Curie va rapporter le cyclotron à Paris, il y aurait une autre expérience possible. Enfin, vous voyez, cette question des instruments est fondamentale. Il faut que les instruments de pointe dans lesquels on peut construire un experimentum soient de bonne qualité. Autour de la pompe à air se joue quantité d'éléments. D'une part, il y a l'anti-aristotélisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi contrôler le vide, contrôler la pression, contrôler l'air, contrôler le feu et contrôler l'eau. C'est-à-dire tous les éléments qui sont absolument nécessaires pour la pompe à air, pour les machines à vapeur. De fait, la machine à vapeur, elle naît à peu près 10 à 15 ans plus tard sous les mains d'un ingénieur qui s'appelle Savery. Et après Savery, ce sera Newcomen, etc. Mais donc, il y a aussi des liens, vous voyez, entre cette science-là et l'industrie. Troisième témoignage, troisième élément d'importance, et j'en termine là, la question de la technologie littéraire. Cette technologie littéraire, elle doit distinguer le fait de l'hypothèse. Et donc, on va utiliser, on va inventer des mots, on va inventer un langage scientifique qui fait que quand on utilise les peut-être, les il semble, les il n'est pas improbable que, on sait ce qu'on dit. Et ce n'est pas la même chose que dire voilà ce qui est. Le matter of fact n'est pas l'hypothèse. Et Boyle explique qu'il y a différents types de langage. Il y a le langage mathématique où là il y a une vérité épidictique, quoi. C'est-à-dire que le langage se suffit à lui-même. Mais le langage de l'expérimentation, il doit s'inventer. Il doit inventer une langue simple. Il doit permettre la réplication des expériences quand on ne les fait pas en vrai. Par exemple, les techniques graphiques, produire chez le lecteur absent du laboratoire une image mentale de l'expérience, ça c'est important. Et voilà. Et tout ça va être diffusé dans toute l'Europe, cette méthode-là. Et voyez tout ce que vous avez appris, vous savez, des phrases un peu ridicules du genre conditions équivalentes de température et de pression, vous voyez, des choses comme ça. Tout ce langage-là naît au XVIIe siècle et il est diffusé d'abord par le complexe épistolaire mis en place par Oldenburg et ensuite par ses journaux philosophiques comme les Philosophical Transactions. Donc, une triple technologie. C'est ça qui est à la base du laboratoire nouveau. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur le laboratoire. Voilà, je vous remercie.